tous et bienvenue sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles et bienvenue dans Histoire de savoir. On va parler aujourd'hui de psychologie sociale et plus particulièrement des relations intergroupes et on va passer tout ça sous la moulinette peut-être de la migration et c'est avec vous Elias Pervanas. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes professeur à l'ULB en psychologie sociale et interculturalité, c'est bien ça?
Oui.
Et vous avez fait donc votre doctorat et toutes vos études à Gand, ce qui explique que peut-être, vous vous exprimez super bien en français, mais bon, voilà. Donc, votre langue maternelle, finalement, c'est le néerlandais.
Oui.
Donc, ça va aller en français?
Oui, oui, on va essayer.
Voilà. Alors, tout d'abord, on parle de psychologie sociale. Quel est, finalement, l'objet de la psychologie sociale? On imagine, mais donc, comment vous la définissez?
Oui, donc, le but de la psychologie sociale, c'est de regarder comment les autres influencent nos comportements, nos attitudes, nos pensées, nos émotions, etc. Donc là, on est dans la frontière entre la psychologie et la sociologie parce qu'on regarde l'individu, mais on regarde aussi le contexte, ceux et celles qui l'entourent, pour voir comment ça peut interagir, comment le moi et le nous sont connectés.
Et donc finalement, est-ce qu'on peut dire que la sociologie et la psychologie sociale sont complémentaires ?
Oui, oui, tout à fait.
Donc là, on est plus peut-être dans la psychologie par rapport à l'individu, comment lui va se comporter, que la sociologie, c'est plus dans les groupes directement, je ne sais pas.
Oui, donc la variable dépendante ou le résultat qu'on va regarder, c'est toujours l'individuel. Et dans la sociologie, c'est souvent le groupe. Donc là, c'est la différence, mais souvent on utilise les mêmes théories, les mêmes cadres de référence, etc. Et de temps en temps, je fais aussi des conférences dans la sociologie, par exemple, pour vraiment voir ce qui se passe dans ce domaine-là, parce qu'ils se nourrissent l'un vers l'autre.
Et donc, on parle donc ici de groupes sociaux. Finalement, un groupe social, c'est quoi ?
Ça peut être n'importe quel groupe avec lequel vous vous identifiez. Donc, par exemple, moi-même, je peux regarder de mon pot de couleur, je peux la couleur de mon pot, c'est ça. Je peux regarder dans ma langue maternelle, je peux regarder dans mon genre ou l'orientation sexuelle que j'ai. Et donc, avec chaque catégorie qu'on peut penser, qu'on peut imaginer, on peut s'identifier avec ce groupe et ça peut même être un groupe imaginaire.
Ok. Et donc finalement, en tant qu'individu, on peut être, évidemment, on peut appartenir à différents groupes, oui. Mais même une multitude de groupes.
Oui.
On n'appartient jamais à un seul groupe.
Non.
Alors, est-ce qu'on peut imaginer que un pays, donc être membre de la population, donc être dans la population belge est un groupe social?
Oui, tout à fait.
Mais il n'est pas uniforme.
Les membres dans cette population, non, ne sont pas uniformes, bien sûr. Même si on pense que les membres de notre groupe sont plus uniformes que dans d'autres groupes, ou les différences entre le nous et les eux.
Ok. Et donc, finalement, on peut avoir des groupes qui entrent en conflit, appartenir à des groupes qui entrent en conflit entre eux.
Oui. Et donc, la structure des différents groupes, c'est un peu bizarre parce que, par exemple, en Belgique, on a des sous-groupes et on peut s'identifier même avec des sous-groupes, par exemple les régions, mais en même temps avec le groupe supraordonné, la Belgique, par exemple, ou le pays.
Est-ce que le groupe social est lié à la culture ?
Oui.
Il y a une culture commune, enfin, aussi, donc là aussi, on peut appartenir à différentes cultures, comme on peut appartenir à différents groupes sociaux. C'est lié à la culture ou c'est pas spécialement lié?
Oui, il y a plusieurs caractéristiques qui définissent un groupe ou le nous, et donc la culture, c'est un aspect. Il y a d'autres, bien sûr.
Et donc, vous parlez de nous et des autres, on parle plus, donc en fait, une fois qu'on est dans un groupe, c'est le nous qui est important plus que l'individu, ou pas spécialement?
Ça dépend. Quand il y a des expériences de succès, on va vraiment penser à nous. Quand il y a par exemple, des échecs, c'est souvent eux.
Ok. Ouais. On peut penser ça peut-être quand les Belges perdent la Coupe du Monde.
C'est le meilleur exemple, oui.
Donc subitement, nous les Belges, on va gagner, puis en fait on perd, l'équipe belge a perdu, quoi.
Mm-hmm.
Ça devient, on n'entre plus dans le nous. Et ouais. Donc, on a parlé un peu de ce qui caractérise, mais qu'est-ce qui caractérise alors finalement un groupe social ? Ou le nous, qu'est-ce qui va le caractériser?
Oui, le nous, c'est un groupe qui est construit par ses membres en disant que cet ensemble d'individus a vraiment des caractéristiques uniques et peut, par exemple, atteindre des buts. Et ça peut être n'importe quoi, mais souvent, ça augmente notre bien-être et notre estime de soi. Et on est fier d'être, de faire partie de cet ensemble d'individus.
Ok. Et donc, après, il y a les autres. Et alors, les autres, eux, c'est quoi leur caractéristique? Enfin, c'est les mêmes caractéristiques, puisque c'est aussi un groupe social. Mais par rapport au nous, qui sont les autres?
Oui, ça peut être n'importe quel groupe qui, ou quel ensemble d'individus qui ne fait pas partie de, du groupe avec lequel on s'appartient. Et donc, les autres. Là, souvent, on attribue des caractéristiques plutôt négatives ou moins positives qu'avec le nous ou avec notre propre groupe. Et les eux, c'est souvent, c'est pas nécessairement les ennemis, mais c'est un groupe avec lequel on veut pas faire avec lesquels on n'est pas trop fier et on veut éviter peut-être le contact avec eux. Et donc c'est vraiment ça fait pas partie de notre ça peut pas augmenter notre bien-être comme notre propre groupe.
Et donc est-ce que finalement c'est de là que naissent tout ce qui est les stéréotypes, les préjugés, les discriminations?
Oui, donc il y a au niveau cognitif on fait des catégorisation. On l'a fait déjà le moment où on s'est croisé ici sur l'escalier parce qu'il y a des trucs qui sont visibles mais aussi non visibles et on a toujours des stéréotypes attachés à chaque catégorisation. Et donc c'est vraiment le monde social, c'est hyper complexe. Il y a trop de stimuli qui se passent en même temps et donc on a vraiment besoin au niveau cognitif de faire des catégorisations. Et donc là, c'est la base des préjugés et des stéréotypes parce qu'avec chaque catégorisation, on attache aussi des émotions, par exemple des sentiments, des attitudes, des stéréotypes envers l'autre, par exemple.
Oui, on voit, c'est super complexe du coup. Et est-ce que l'autre, les autres, ça va d'office être conflictuel?
Pas nécessairement, mais il y a ce principe qui s'appelle l'homophilie. C'est on aime ce qui est comme nous. Et donc, c'est quelque chose qu'on retrouve dans plusieurs études, qu'on n'est pas nécessairement négatif envers l'autre, mais on est plus positif envers le nous. Et même avec des groupes qui sont presque vides, qui n'ont pas de contenu, on va privilégier notre propre groupe, on va être plus fier de notre propre groupe et moins envers l'autre.
Ok, mais il peut y avoir une complémentarité à un moment. Alors, je vais prendre un bête exemple, les élections. Hein, si on prend les élections, si on prend le groupe social MR et le groupe social engagé, qui au départ n'étaient pas censés s'entendre, ben là, en fait, ils s'entendent comme larron en foire.
Oui.
Donc il peut y avoir, quand il y a quoi? Quand est-ce qu'on retrouve cette complémentarité ou cette mise en commun finalement des...
Oui. Ben, un but commun peut vraiment stimuler la coopération entre deux groupes. Et là, peut-être le MR et les engagés ont trouvé un autre groupe, un groupe supra-autonomé avec lequel ils s'identifient maintenant. C'est le gouvernement, par exemple, le gouvernement francophone. Et donc, là, ça peut... Ben, des buts en commun, par exemple, mais aussi l'idée qu'on ne peut pas avancer sans l'autre, ça va bien sûr stimuler la coopération entre deux groupes. Peut-être même on va laisser tomber l'identification avec le groupe original et plus s'identifier avec le nouveau groupe qui est créé.
Donc finalement, c'est mouvant. Quoi. Les groupes sociaux sont complètement bougent tout le temps.
Oui, tout à fait.
Comme l'être humain, quoi. Finalement, c'est un fonctionnement. Et donc, on va faire le lien avec tout ce qui est migration. Donc, finalement, la migration, c'est quoi son nom? C'est des groupes sociaux, finalement, qui débarquent, qui arrivent chez nous. Tiens, voilà, je l'ai dit. et donc, là aussi, comment ça se passe, alors? Ça se passe de la même façon ou
Oui, et là aussi, on le sait quand on regarde les actualités, mais il y a beaucoup de tensions, bien sûr, quand il y a des primo-arrivants d'un autre groupe ethnoculturel ou religieux. Et donc, ce n'est pas nécessairement lié à des attitudes négatives, mais au tout début, on retrouve plutôt des attitudes ou des sentiments de menace ou d'anxiété parce qu'on ne connaît pas cet autre groupe, on ne sait pas ce qui va passer. Et après un certain moment, quand on a eu l'opportunité, par exemple, d'avoir des expériences avec des membres d'autres groupes, on va, surtout quand c'est positif, on va lier ces expériences individuelles au niveau supraordonné. On va dire, ah ok, peut-être on a aussi des similarités entre nous et peut-être je me sens plus positif envers eux quand même.
Et mais en fait, cette tension finalement avec, on va parler d'un groupe social alors que finalement on a beaucoup de groupes sociaux dans les migrants, dans les migrants également, on ne voit pas spécialement. Donc pour nous, les migrants, c'est un groupe social en général. Est-ce que c'est plus compliqué qu'avec des groupes sociaux, avec d'autres groupes sociaux? Est-ce que là, est-ce qu'on a une exacerbation? Je ne sais pas si ça se dit. Est-ce que finalement les tensions sont exacerbées avec, avec les migrants? Et peut-être pourquoi?
Oui, je pense il y a plusieurs caractéristiques d'un groupe d'immigrants, par exemple, qui rendent ce groupe plus visible et plus, peut-être plus inclin à être stigmatisé ou discriminé. Et donc, c'est la visibilité et les différences qui sont peut-être aussi dans les médias augmentées ou plus prononcées ou exagérées, comme vous dites. Donc, et aussi, par exemple, il y a des différences entre des différents groupes de migrants et peut-être des migrants qui viennent de la France ou des Pays-Bas, de l'Allemagne, ne sont pas regardés vraiment comme le « eux » ou comme l'exogroupe. C'est vraiment « ok, ils sont un peu comme nous, donc peut-être on va les accueillir un peu plus ». Il y a aussi ce double standard quand on regarde des réfugiés qui viennent de l'Ukraine versus Gaza. Donc là, on retrouve que le moins de similitudes on trouve, le moins accueillant peut-être qu'on va être au tout début.
Voilà, c'est ça. Donc c'est ce qu'il y avait eu comme critique d'ailleurs, enfin critique entre guillemets aussi par rapport aux réfugiés ukrainiens, c'est que finalement on les a accueillis alors que les réfugiés syriens qui vivaient la même situation de guerre n'étaient pas accueillis de la même façon. Donc finalement on est quand même assez basique en tant qu'être humain. On fonctionne on fonctionne beaucoup sur les caractéristiques physiques finalement. C'est ce qui me ressemble physiquement va.
Oui, tout à fait. Juste. Comme j'ai dit, on fait ces caractérisations parce que sinon, si on ne fait pas des catégories, c'est trop difficile à gérer. notre réseau social, par exemple, ou nos expériences, ou juste de travailler ensemble avec une équipe.
Fragile, les beaux discours, le temps qu'on perd, l'ordinaire trop banal, du haut des tours, le bruit des villes, rien à faire, j'écoutais, je suis sourd, la jeunesse. Le cœur lourd, le cœur fragile, la promesse d'une image, le présent qui défile, l'animal qui a mal. Le cœur fragile, le paysage sans horizon. Sans bagage, c'est difficile, sans attention, c'est difficile, sans équipage, c'est difficile, la jeunesse, le poing lourd, au corps fragile. La promesse d'une image, le printemps qui défile, l'animal qui a mal. Nos cœurs fragiles, nos petits tours, nos inventions, c'est inutile sans ta main sur le front. C'est inutile sans ton visage. C'est inutile. la tendresse. J'écoutais, je suis sourd.
Voilà, j'avais lu un exemple comme ça de pourquoi est-ce qu'on catégorise l'autre, enfin les autres, et c'était, il prenait l'exemple de que ça venait en fait de quand on était des primates à peine sortis de la jungle, on va dire. Mm-hmm. Donc c'était que on va se faire attaquer par un lion, on va se faire attaquer une fois par un lion, deux fois par un lion, finalement les lions sont méchants. Et donc on va catégoriser tous les lions, alors que finalement tous les lions ne sont peut-être pas, mais on va catégoriser les lions histoire de ne pas se faire manger par chaque fois par les lions, quoi. Et donc cette façon-là, que c'était pour ça qu'on catégorisait, c'était pour se protéger finalement.
Oui, oui, on en a besoin. Même aujourd'hui, souvent on pense qu'on en a besoin et donc on fait des généralisations qui ne sont peut-être pas correctes. Oui.
Alors qu'on a tendance à dire que justement on est beaucoup plus inclusif maintenant, donc finalement quelque part l'inclusion c'est quelque chose un peu d'utopique alors.
Oui.
C'est triste. Mais...
mais au niveau politique c'est vrai qu'on a quand même réfléchi à comment gérer la diversité par exemple ethnoculturelle dans la société et donc on a trouvé plusieurs solutions et l'une est plus inclusive que l'autre, mais aujourd'hui on ne sait pas vraiment quelle est la solution correcte ou la plus efficace, et ça dépend encore du résultat qu'on regarde. Si on regarde au niveau économique ou au niveau de bien-être, de cohésion sociale, etc. Donc, c'est vraiment une question difficile, comment gérer la diversité.
Parce que de toute façon, on va catégoriser, et même on voit par exemple dans le mouvement LGBT, LGBTQIA+, il y avait cette volonté au départ de la lutte qu'on disait d'ailleurs à ce moment-là, juste homosexuel, de vouloir finalement ne plus être une catégorie. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, justement, avec toutes ces lettres? On recatégorise. Donc finalement, LGBTQIA+, mm-hmm. on remet des cases. Donc c'est inéluctable, en fait.
Oui, je suis d'accord. D'une autre façon, je pense que c'est aussi, car ce groupe, cet ensemble d'individus, est vraiment stigmatisé beaucoup, qu'on a besoin de le nommer quand même.
Mm-hmm. Et de se nommer chacun, parce que c'est lesbienne d'un côté, bi de l'autre, les personnes transgenres, intersexes. Enfin voilà, il y a quelque chose presque une séparation finalement. Donc on retrouve des catégories, donc vous dites.
Oui, oui.
Mais c'est un besoin.
C'est un besoin. Une autre solution, c'est de personnaliser tout le monde ou chaque personne qu'on rencontre, ce qui est aussi très, très difficile. Donc, après un certain moment, on va à nouveau essayer quand même de faire des catégorisations pour rendre les choses un peu plus, entre guillemets, simples.
Et par exemple, avec les migrants, donc, là, vous parlez aussi qu'on avait cherché des solutions à cette... à ces différences ethnoculturelles. Quelles sont ces solutions qu'on peut trouver, qu'on a trouvées pour l'instant?
Oui, donc dans la littérature, le focus est surtout sur deux pistes. L'une, c'est l'identité, et donc d'essayer de créer un nouveau groupe, par exemple, ou une identification avec soit le pays, soit la communauté où on vit, l'autre. Et je trouve que là, il y a beaucoup d'espoir, c'est de stimuler des expériences de contact. On s'appelle ça le contact intergroupe, et c'est l'hypothèse la plus facile, c'est de quand on a beaucoup d'expériences qui sont positives, on va devenir moins préjugé ou raciste ou n'importe quel ist ou aube qu'on peut avoir. Et donc il y a beaucoup de littérature qui montre que ça marche, mais qu'on va stimuler les gens. Même s'il y a beaucoup de diversité, quand on parle des quartiers à Bruxelles, par exemple, il n'y a pas nécessairement beaucoup de contacts entre des membres de groupes différents. Donc, si on fait vous avez parlé d'un festival, mais si on fait si on donne les occasions de se rencontrer, et si cette occasion est accessible pour chaque groupe, peut-être là, on peut stimuler ou augmenter ces opportunités de contact et comme ça, stimuler aussi la tolérance envers l'autre.
Du coup, là, on fonctionne dans l'individuel. Donc là, on est vraiment dans la psychologie sociale. Mmh. Donc là, c'est partir de la personne, en fait. Oui, dans un groupe de personnes, mais de l'individuel qui va ramener ça dans son groupe et qui va peut-être... C'est ça l'idée ?
Oui, oui. Dans nos têtes, qu'on récategorise, par exemple, après avoir eu une expérience tellement positive.
Vous avez des exemples concrets de cela ?
On a fait une étude avec une mémorante, c'était à l'époque à Gand, et on avait mesuré parmi la population flamande, néerlandophone, etc., sans lien migratoire, avant et après une fête multiculturelle, s'ils avaient des préjugés ou des stéréotypes envers d'autres groupes. Et donc, l'idée, c'était ce petit festival qui a été organisé dans une communauté ou dans un quartier. C'était de la musique, mais aussi beaucoup de tables avec un petit peu de repas de chaque culture, entre guillemets. Et on a trouvé des résultats mixtes, mais quand même, surtout envers des personnes qui étaient le moins... positif avant ce festival. On a trouvé que cette augmentation en termes de tolérance était le plus prononcée envers eux, ou autour pour eux,
c'est pour ça. Eux. et donc, c'est ça, donc il y a moyen de dépasser les stéréotypes et les préjugés.
Oui, mais c'est pas facile. Et donc, on doit vraiment donner un petit.
Faut pousser un peu.
Oui, pousser un petit peu. Ouais.
Ok, et finalement, parce que là, on parle de. Nous et de eux, mais finalement, est-ce que eux aussi ont des eux, donc ces groupes de migrants ont eux aussi, j'imagine, leurs propres croyances envers nous.
Oui, tout à fait. C'est quelque chose peut-être qui n'est pas trop woke pour le dire, mais il y a aussi des attitudes négatives parmi, par exemple, les personnes qui arrivent ici envers d'autres groupes. Ça peut être la société belge, mais ça peut être aussi d'autres groupes d'immigrants. Donc il y a attention aussi parce que eux aussi, entre guillemets, sont humains.
Bah oui,
donc,
mais c'est ça. Oui. C'est obligé, en fait.
Oui, et elles font aussi des catégories, etc., etc. Donc, ouais.
Oui, c'est ça, c'est obligatoire. C'est obligatoire, finalement. Finalement, c'est presque une loi de se dire qu'on va catégoriser et donc on va avoir les uns envers les autres, en fait, qu'on aille dans n'importe quel sens, des stéréotypes et des préjugés. Et c'est peut-être ça qui bloque aussi, c'est que finalement, ça va pas dans un sens, ça va dans les deux sens. Donc il faut travailler... Des deux côtés.
C'est inévitable, mais des solutions desquelles j'ai parlé, par exemple une identité qui lie les deux groupes ou un contact entre ces deux groupes, ça va aussi des deux côtés. Donc là, on trouve que même si c'est, entre guillemets, inévitable, la solution est aussi là pour les deux groupes ou pour les plusieurs groupes culturels qu'on a dans notre pays.
Mais donc, c'est un travail qui va devoir être fait continuellement, puisqu'en fait la nature humaine ne va pas changer. Est-ce que et là ça devient une question un peu délicate, mais est-ce que finalement finalement nous serions pas tous quelque part racistes? Ça allait très loin, mais comme on a ces stéréotypes et ces préjugés envers les autres groupes sociaux, est-ce que finalement le racisme n'est-il pas inéluctable, obligatoire, naturel?
Oui,
c'est un peu trash, hein.
Je regarde le racisme ou les attitudes envers d'autres groupes comme, par exemple, notre taille ou notre quotient d'intelligence. On trouve souvent ou presque toujours une courbe de Gauss.
Une courbe de Gauss.
Avec beaucoup de personnes au milieu. Il y a des personnes dans les extrêmes, et donc il y a des personnes qui sont extrêmement racistes. Et même parmi les personnes qui disent qu'ils ne sont pas du tout, là on trouve aussi, c'est moins prononcé bien sûr, mais cette préférence pour leur propre groupe vis-à-vis d'autres groupes. Donc je trouve qu'on peut essayer de bouger cette courbe un petit peu, ou on peut essayer de lier les groupes et les rendre un peu plus positifs, mais à la fin, je pense que c'est que ça qu'on peut faire. En même temps, qu'il y a aussi plus de confiance maintenant qu'avant. Quand on parle des préjugés, par exemple, on a presque plus de préjugés ou de le racisme très très flagrant. La plupart de la population belge supporte des mariages, par exemple, interethniques, etc. Ce qui, quand on parle des années 70, c'était pas du tout le cas. Donc on a vraiment vu, ce sont des études plutôt sociologiques, on a vu une tendance à être plus tolérante comme société, mais en même temps, peut-être ces stéréotypes et ces préjugés sont transmis dans une forme plutôt subtile, comme l'évitement d'aller en contact avec d'autres par exemple.
C'est ça, donc en fait on va éviter de se confronter pour éviter d'être, d'avoir des comportements. Et donc c'est finalement un travail sur soi en fait, c'est plus on est conscient de ce fonctionnement-là, plus on va pouvoir aller au-delà en fait.
Oui, mais aussi plus qu'on augmente notre connaissance de, par exemple, des coutumes d'autres groupes, de plus on va voir qu'ils ne sont pas trop différents, ou peut-être c'est chouette de goûter quelque chose d'une autre culture, de regarder la télé ou d'écouter de la musique d'une autre culture. Comme ça, on va vraiment... Il y a un terme qui s'appelle la déprovincialisation, et donc après avoir eu beaucoup de contacts, on va aller cognitivement en dehors de notre propre
cadre de référence.
Oui, cadre de référence, oui. Il y a cette expression, mais je pense que ça ne marche pas en français, que les Belges restent autour de leur église, et donc en ayant beaucoup de contacts, on ose d'aller plus loin.
Plus loin que l'église. Ouais. C'est pas bête, ça, en effet. Ouais. Et donc, finalement, une certaine humanisation de l'autre aussi. Donc, de se dire que l'autre n'est pas juste un autre ou des autres. Donc, ce ne sont pas des migrants, ce sont des personnes. C'est aussi une solution, peut-être.
Oui, oui. La déshumanisation, même les formes subtiles, c'est l'ennemi d'une société cohésive. Donc, oui. Ouais.
Alors comment est-ce qu'en psychologie sociale, j'espère que vous allez savoir me répondre parce que c'est vraiment une question que je me pose, comment est-ce qu'en psychologie sociale on peut expliquer aujourd'hui ce repli sur soi aussi, par exemple la montée de l'extrême droite d'un côté, ou l'exacerbation d'une identité par exemple musulmane, comment est-ce qu'on explique ce repli quelque part, une sorte de repli identitaire?
Oui.
Est-ce qu'on l'explique?
C'est aussi une question très très intéressante. En tant que psychologue politique, j'ai aussi fait des études qui regardent le lien entre la diversité ethnoculturelle dans une société ou dans une communauté et le support pour les alternatives extrême droite. Et là, on a trouvé que ce lien n'est pas si simple à expliquer. Il est là, mais il est là que pour une partie de la population. Donc surtout des personnes qui sont déjà un peu traditionnels ou traditionalistes, eux et elles sont menacés ou sont anxieux envers les groupes qu'ils ne connaissent pas. Et donc, là, ils ont trouvé que certaines parties d'extrême droite ont donné une solution pour ces sentiments-là. Et donc, on voit vraiment que le droite est devenu extrême droite à cause de la diversité, mais à cause du fait que l'extrême droite a vraiment utilisé cela comme thème d'élection. Mm-hmm. Et en Flandre, par exemple, ça a vraiment marché. C'était un succès électoral deux fois en 2019, mais aussi cette année. Donc, je pense qu'il y a aussi cette forme de populisme là-dedans où le gouvernement ou les partis du centre n'ont pour l'instant pas une réponse adéquate et donc ils perdent un petit peu cet électorat ou cette partie de l'électorat parce qu'ils sont en train de réfléchir comment gérer la diversité. Donc c'est un débat très très délicat et compliqué.
Ouais. Il y a aussi peut-être ce côté, enfin, ça, c'est parce que quand on pense à l'Afrique du Sud et à la politique d'apartheid jusque dans les années 90 quasi, où en fait il y avait cette peur de la multiculturalité qui allait, on allait perdre finalement le groupe nous avait peur de perdre ses caractéristiques finalement. Mm-hmm. On retrouve ça encore aujourd'hui. On pourrait imaginer qu'il y ait cette peur de perdre son identité, finalement.
Oui, ça joue un rôle aussi. Et donc, on a plusieurs formes de multiculturalisme qu'on peut considérer. Et une des formes, c'est aussi ce qui s'appelle le polyculturalisme ou l'interculturalisme, où les groupes se mixent. Et après ce contact, ou après tout cela, on retrouve une nouvelle culture, quelque chose qui n'existait pas en avant et où il y a plusieurs caractéristiques de d'autres groupes, mais il y a vraiment, on peut pas tout à fait reconnaître la culture originale, par exemple, encore. Et ça, c'est très menaçant, surtout envers des personnes qui sont plus conservatrices. Et on a fait une étude plutôt expérimentale où on a donné des exemples des sociétés possibles. Et donc, comment peut-on gérer la diversité? Donc, il y a cette stratégie plutôt envers l'apartheid où on dit oui, on a la monoculture qui est là et qui est le plus important, et les autres peuvent être là, mais dans la marginalité, entre guillemets. Il y a cette multiculturalisme où on retrouve plusieurs cultures en même temps, mais on évite le contact parce qu'on veut garder chaque culture un peu pure, entre guillemets. Et il y a cette mixing qui est vraiment une fusion de chaque culture, et surtout la dernière option, c'est pour une partie de la population, c'est pas la solution idéale.
Alors que moi je me dis ça, c'est la solution idéale en fait.
Oui, oui, il y en a qui supportent et qui sont très très positives envers cette solution, mais donc c'est ça qui est intéressant, que même dans notre groupe, que de personnes sans origine migratoire, là, on retrouve qu'il y a des idées très, très éloignées de l'un de l'autre, et même entre le « nous », ou dans le « nous », il y a beaucoup de polarisation, il y a beaucoup d'opinions différentes, et c'est ça qui rend les choses intéressantes, bien sûr.
Et finalement, ces différents comportements sont alimentés, finalement, par quoi ? Par la politique ? Par les médias ? Est-ce que ça joue un rôle ? Est-ce que la politique du pays joue un rôle ? Je suppose qu'en Afrique du Sud, si on reprend l'exemple de l'Afrique du Sud, que tous les Afrikaners n'étaient pas spécialement pour l'apartheid, mais que par la force des choses, est-ce que finalement la politique du pays, et peut-être aussi, enfin évidemment, les médias comme quatrième pouvoir, jouent un rôle là-dedans ?
Oui, oui. Et je pense que les mesures que la politique fait peuvent vraiment soit stimuler cette inclusivité dans la société, soit l'éviter ou vraiment le gérer d'une autre façon qui n'est peut-être pas désirable. Vous parlez de beaucoup de pays, mais aussi au niveau régional ou même local, il y a plusieurs mesures qui peuvent jouer un rôle et qui peuvent rendre l'histoire de diversité chouette pour la plupart, ou moins chouette, bien sûr. Oui.
Est-ce qu'on peut donner ça comme exemple, par exemple en France, avec le très beau score, ou le très moche score finalement, qu'a fait le RN, donc le Rassemblement National, une fois qu'il était peut-être question, après le premier tour, que Bardella soit Premier ministre en France, c'était une éventualité, qu'il y a eu des actes racistes, ouvertement racistes, et même pas cachés, qui ont émaillé la France. Est-ce que ça montre, c'est un exemple qu'on pourrait utiliser, que donc la politique peut amener à des comportements différents ?
Oui, on peut dire qu'on a parlé juste avant du racisme flagrant ou des actes, des comportements très très déshumanisants et très très agressifs envers l'autre. Peut-être, c'est une hypothèse, c'est encore dans nous, mais c'est la réalité politique ou le contexte qui nous dit, notre groupe qui nous dit, c'est plus acceptable de faire
voilà.
cela.
Voilà, et que si maintenant...
Et ouais. quand ça change, oui, oui. Même si, par exemple, aux Pays-Bas, il y a aussi un gouvernement ben, le plus droite
ouais, ouais.
qu'après la Deuxième Guerre mondiale, je crois. Mais même là, on retrouve pas une augmentation d'agressivité ou de violence envers d'autres groupes ou envers les personnes issues de la migration. Donc, je ne sais pas, peut-être c'est une combinaison entre l'individu et le contexte qui incite des trucs comme ça.
Et finalement, alors, Jasper Vanhasse, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour justement arriver à une société inclusive ? Est-ce que vous avez une solution miracle ?
Non.
Ok, merci.
Si je l'avais, j'étais pas ici, je crois. Peut-être, oui, Oxford ou Cambridge.
C'est vrai. Mais non, est-ce qu'on peut... voilà, comment est-ce qu'on... Est-ce que les auditoristes là, qui nous écoutent, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place à l'échelle individuelle pour pouvoir justement arriver à une société, inclusive ? C'est ce qui est le rêve, évidemment. Quand je parle de société inclusive, c'est inclusive par rapport aux caractéristiques ethniques, handicap, orientation ou genre. Enfin voilà, tout en fait. Qu'est-ce qu'on doit faire individuellement ?
Oui. Bah, individuellement, je vais à nouveau... utiliser des catégories qui ne sont pas du tout correctes. Mais bon, pour la partie des personnes qui écoutent et qui se sentent anxieux ou qui se sentent menacées par d'autres groupes, je sais qu'il y a un obstacle, mais essayez quand même de faire l'effort et peut-être avoir un ou deux contacts par jour avec quelqu'un qui est d'un autre groupe, juste pour voir ce que ça donne. Pour l'autre groupe qui trouve qu'ils sont déjà très, très inclusifs et qui sont pro-migration, etc., peut-être aussi essayer d'écouter l'autre ou des personnes qui ne sont pas comme vous, qui ont peur et qui ont des besognes. Peut-être on peut nourrir le débat et essayer de ne pas tomber dans des extrêmes ou des opinions polarisées. Parce que je trouve que en parlant et vraiment écoutant, on peut apprendre une ou deux choses de l'autre, entre guillemets.
Eh bien voilà, donc c'est sur cette phrase positive et donc ce conseil à tout un chacun chacune que cette émission se referme. Donc c'était Histoire de savoir avec Jasper Vanhasse et on parlait donc de relations intergroupes et de migration. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Vous revenez quand vous voulez sur des sujets connexes et on se fera un plaisir d'en discuter avec vous. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.
Au revoir.